Frères et sœurs, regardez la tristesse de ces noces. Il n'y a plus de vin à la fin de ces noces. Ces noces n'arrivent pas à la joie. Il y manque la joie. Il y manque quelque chose à ces noces de Cana. Et la Vierge Marie entend la tristesse de ces noces. Et quelles étaient donc ces noces, si ce n'est nos noces à nous, votre noce, ma noce, la noce de l'humanité, un Dieu qui vient vous épouser. Aujourd'hui, nous célébrons un repas de noces. Et si nous sommes là au milieu de la nuit, c'est bien pour une alliance. Dieu vient nous épouser. Mais justement, à ces noces de Cana, il manquait quelque chose. Il y avait une tristesse. On manqua de vin, c'est-à-dire la joie n'était pas à son comble. Il manquait la joie. Et ces noces auxquelles nous sommes invités ce soir, c'est bien pour que nous soyons remplis de joie, car un Dieu qui vient nous épouser, c'est quand même quelque chose, non? C'est quand même extraordinaire. Vous êtes la terre des épousailles de Dieu. Avec vous, la terre des épousailles de l'alliance de Dieu avec l'homme, vous êtes la terre de l'alliance. Qu'il est beau ce mariage. Mais voilà, il y manquait de vin à la fin et la joie n'était pas là. Mère de miséricorde, apprends-nous la joie. Mais d'abord, avant, il convient que nous soyons dans la joie, dans l'émerveillement, dans la louange. Dans la louange d'être invité à de telles noces, dans la joie de cet amour infini, cet amour du Créateur pour nous. Et cette joie, comment peut-elle venir? Oh, vous me direz, j'ai telle ou telle tristesse. J'ai telle ou telle demande de guérison, j'ai tel ou tel combat, j'ai telle ou telle chose qui me rend terrible, je suis abandonné, seul, mes enfants font n'importe quoi et moi aussi. Alors, vous me raconterez vos tristesses plus tard. Le secret de la prière, c'est de commencer par la louange. Car ce qui est premier, c'est pas d'aller me raconter toutes vos détresses. Ce qui est premier, c'est que vous êtes aimé par Dieu. Ça, oui, c'est ce qui est premier. Ce qui est premier, c'est que vous ne méritez pas et que je ne mérite encore moins que vous l'amour de Dieu. Mais que je suis aimé de Dieu. C'est que cet amour, il est gratuit. Je ne le mérite pas. Je ne mérite pas cette beauté de la création. Je ne mérite pas celui qui m'aime ou qui m'a aimé. Je ne mérite pas le Christ qui vient à moi. Je ne mérite rien. Dieu me doit rien. Mais je suis aimé. Alors, le premier cri qui jaillit de nos cœurs comme le cri de notre nouvelle naissance, c'est le cri de l'émerveillement. Et c'est parce que nous sommes émerveillés de cet amour gratuit que nous pouvons voir la réalité. Décidément, ces noces manquent de vin. Il y manque quelque chose. Il y manque quelque chose. Et voilà que la Vierge Marie, elle a un cœur de tendresse. Et comme beaucoup de mères, vous savez, elle voit les choses. Une mère, ça parle pas beaucoup forcément, mais ça voit les choses. C'est capable de dire, oh, là, en tout cas de le penser, là t'as un truc, t'as un problème, là ça va pas. Voilà, une mère, ça voit, et je suis sûr que celles d'entre vous qui sont mères, vous avez vu bien des choses, sans toujours le dire, et vous en portez bien des choses. La Vierge Marie, c'est une mère qui voit. Elle voit dans le silence, elle voit dans le secret du cœur. Et justement, elle se laisse toucher par la tristesse de ses noces. Pensez à Estelle Faguette de Pellevoisin. Oh oui, elle aimait la Sainte Vierge. Elle aimait la Sainte Vierge. Mais vous savez, elle avait un problème. C'est qu'elle était très malade. Elle allait mourir. Et ce qui l'attristait, ce n'était pas de mourir et d'aller voir le Seigneur. C'est pas pour ça qu'elle demandait la guérison. Ce qui lui faisait de la peine, c'est que c'était elle qui, par son petit salaire, faisait vivre ses parents, et que si elle venait à mourir, ses parents allaient se trouver dans la rue à mendier. Alors là, c'était pas pour elle, c'était pas parce qu'elle voulait retarder le moment où elle allait pouvoir entrer dans les bras du Christ, mais pour ses parents quand même. Il fallait faire quelque chose. Alors elle écrit à la Vierge Marie. Elle écrit une très belle lettre. Et parce qu'elle est malade, elle ne peut pas y aller. Et elle envoie quelqu'un d'autre déposer dans la grotte, qui est le facsimilé de la grotte de Lourdes, au fond du château où elle travaillait, le château de Montbel, la lettre qu'elle a écrite. Et elle demande sa guérison, non pas pour elle, mais ô Vierge Marie, sois touchée dans ton cœur pour toucher le cœur de ton fils Jésus, parce que si je meurs, mes parents vont mendier, et je veux honorer mes parents, j'aime mes parents, et je ne veux pas qu'ils soient dans la rue à mendier. Vous voyez, Estelle, elle fait comme pour ses noces de Cana, et la Vierge Marie entend la prière, parce qu'elle est toute miséricordieuse, alors elle va venir voir Estelle dans sa chambre et la guérir. Alors, la Vierge Marie va aller se tourner vers son fils Jésus en disant « Ils n'ont pas de vin ». Et Jésus connaît les psaumes. Donc il sait bien que ce n'est pas une question de vin, c'est une question de joie. Car le psaume dit bien « Le vin rend le cœur de l'homme joyeux et Dieu aime l'homme ». Veut la joie de l'homme. Mais Jésus veut nous faire comprendre que cet exaucement, c'est pas pour faire un petit miracle comme ça à un mariage, puisque c'est notre mariage, c'est mon mariage et c'est le vôtre. Il s'agit bien de quelque chose de beaucoup plus grand. Femme, que me veux-tu? Oh, si votre fils vous parle comme ça, je sens qu'il y en a certaines qui vont dresser les cheveux sur la tête. Je pense que là, il y en a même qui diraient à leur fils, ça ne se fait pas de parler comme ça à sa mère, n'est-ce pas, hein? Ouais, j'en vois qui sont d'accord avec moi. Mais au pied de la croix, rappelez-vous, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Femme, que me veux-tu? Voilà le chemin par lequel je vais te donner l'humanité comme fils et comme fille. Je vais donner à l'humanité une mère. Toi, Marie, ma mère, tu vas devenir leur mère. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Quelle est belle cette maternité. Ce jour de votre mariage, où Jésus vient vous épouser, vous recevez la mère du ciel, la mère des hommes, la mère de Dieu, la Vierge Marie, femme, que me veux-tu? Et Jésus continue sa phrase. Vous me pardonnerez de ne pas prendre la même traduction que celle du lectionnaire. Mon heure n'est-elle pas venue? Car, je m'excuse de faire cette digression en grec, mais c'est la même phrase qui dit « Mon heure n'est pas encore venue et mon heure n'est-elle pas venue ?» C'est exactement la même phrase en grec. C'est simplement qu'on a fait un choix de traduction il y a 60 ans de traduire comme ça et de ne pas traduire « Mon heure n'est-elle pas venue ?» C'est simplement un choix. Et pour ceux qui ont des Bibles avec des notes, vous avez en note en disant une note qui dit « On pourrait aussi traduire. » Et moi, je préfère traduire ça. Car c'est vraiment toute l'attitude du Christ. Mon heure n'est-elle pas venue? Ça y est, je vais pouvoir sauver l'humanité. Ça y est, c'est l'heure du salut. C'est la joie de l'attente, la joie du Christ qui vient exaucer à ce moment-là. Vous vous rendez compte ? Mon heure n'est-elle pas venue ? Ça y est ! Moi qui attendais, la Vierge Marie, elle a dit oui pour porter le Sauveur du monde. Et là, le Sauveur qui attendait depuis 30 ans dans les rues de Nazareth, voilà que la Vierge Marie lui dit « Ils n'ont pas de vin. Il faut accomplir la joie pour l'homme. Mon heure n'est-elle pas venue ?» Ça y est, elle est venue cette heure du salut. Il est venu l'heure du Christ, l'heure de la joie pour l'homme, l'heure du salut, l'heure de l'accomplissement de la miséricorde pour chacune et chacun d'entre nous. Et Estelle est guérie dans sa chambre à Pellevoisin. Voilà la miséricorde de Dieu qui vient jaillir, la joie de Pellevoisin, la joie de l'homme sauvé, la joie de l'accomplissement par l'heure du Christ. Mon heure est venue. Mais voilà, la Vierge Marie, elle ne se contente pas de guérir. Elle donne une mission à Estelle. Publie ma gloire. C'est les petits et les faibles qui sont au cœur. Et puis, il faut que tu aies du courage. Va annoncer. Vous savez, comme Dieu a dit à Moïse, « Ah oui, j'ai entendu les cris de mon peuple esclave en Égypte. » Alors, peut-être que si j'avais hérité le texte à « alors », vous diriez, alors Dieu va dire, « Alors moi, je vais libérer mon peuple. » Non, il dit à Moïse, « Alors va, je t'envoie, tu vas aller dire à Pharaon que ça ne va pas. » Ben Moïse, il s'est dit, comme manière d'exaucer la prière, j'aurais préféré qu'il prenne une autre fin de phrase. Alors, hop, je vais te sauver. Ben non. Et alors là, à Estelle, c'est la publication de la gloire, le cœur de Jésus uni au cœur du Fils de Jésus, c'est le scapulaire, c'est la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde, les entrailles de la Vierge Marie, les entrailles de Jésus qui se sert devant la misère des hommes. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Voilà. Estelle, il a fallu qu'elle ait la foi. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Vous aussi, il faut que vous ayez la foi. La foi, c'est tout. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Moïse, il fallait qu'il ait la foi. Va voir Pharaon et dis-lui, libère mon peuple. Et peut-être que moi aussi et vous aussi, il faut que vous ayez la foi. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Osez ! Osez croire en cette miséricorde infinie de Dieu, car vous allez changer l'eau en vin, rien que par la sagesse et la force. Il en a fallu du courage à Estelle après, car je vous passerai les diffamations dont elle a été victime. Ça a été dur, hein, toutes les épreuves qu'elle a eues après. L'humanité n'est pas tendre, hein, toujours. Mais elle, elle a cru. Elle a avancé, au-delà de toutes les diffamations. Et s'il a fallu 150 ans pour reconnaître ses apparitions, c'est peut-être parce qu'il a fallu aussi montrer toutes ces diffamations qui étaient des vraies diffamations sur elle. Il a fallu, une à une, montrer pourquoi c'était faux dans toute son histoire. Alors on ne raconte jamais les diffamations, on raconte que la sainteté, parce que c'est ça qui est important, le reste. Laissons ça à la passion du Christ, il nous en a sauvés, il nous en a délivrés. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Alors les serveurs, ils ont eu l'impression qu'on leur demandait des choses énorme, six énormes jarres d'eau. Mais vous savez, il manquait une jarre. Car quand vous lisez six jarres d'eau, vous êtes comme moi, vous ne comprenez pas. Parce que vous vous dites, six jarres de purification, ça ne va pas, n'est-ce pas? C'est ce que vous êtes tout de suite dit, non? Bon. Oui, non? Vous n'osez pas répondre. Eh ben non, il manquait la septième, car la perfection, c'est la septième jarre. Il faut sept jarres pour être purifié. Et alors les pères de l'Église, dans les premiers siècles de l'Église, se sont posés la même question que moi, ou peut-être que je me la suis posée grâce à eux. Mais où est la septième jarre? Et ils m'ont conduit au pied de la croix. C'était la jarre de vin aigre qu'on a fait boire du Christ. Et cette jarre de vin aigre au pied de la croix, dont on donne à boire dans une éponge au Christ au moment de son dernier soupir, il nous la rend. Il nous la rend, de son côté ouvert coula l'eau et le sang de la charité, le sang de ses noces de Cana, au vin aigre de notre offrande, de l'offrande de la pauvreté de nos vies, au vin aigre de notre offrande mêlée à notre péché, à l'offrande de nos désespoirs qui sont mêlés à ce vin pour le rendre aigre, au vin aigre de l'épreuve, au vin aigre de l'angoisse, au vin aigre de nos doutes. Voilà que nous offrons ça au crucifié simplement dans une éponge. Et qu'est-ce qui nous est donné alors en échange? Voilà que le vin aigre de notre offrande va devenir le vin doux et merveilleux de l'Alliance. De son côté ouvert coula l'eau de la vie et le sang de l'Eucharistie, le sang du Christ, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour l'humanité en rémission des péchés, en rédemption pour le monde. N'est-ce pas beau cette alliance? N'est-ce pas grand cette miséricorde? Le vin aigre de notre vie devient le vin doux de l'alliance éternelle et belle. Le vin doux que nous allons recevoir en son corps dans quelques instants, le vin de la sainteté. Pour cela, peut-être, trois conseils. Évidemment, ce sont les conseils de Estelle Faguette, appel voisin. Courage, le courage de la foi. Osez croire, osez avancer dans le chemin de la foi. Osez croire que le vin aigre de votre offrande va devenir le vin doux de cette alliance. Le courage, la force de l'Esprit Saint pour avancer, la force pour garder le chemin dans la fidélité, quelle que soit l'épreuve, le calme. Un jour, la Vierge Marie est apparue à Estelle, et puis, en fait, elle est repartie. Alors le lendemain, Estelle lui dit, et quand même, elle ne lui parle pas comme ça, hein, mais... Et alors la Vierge Marie lui dit, oui, tu étais beaucoup trop agitée, ça n'allait pas. Il faut du calme. Et oui, si vous croyez, soyez calme. C'est simple. Si vous voulez garder un cap, le cap de la sainteté, soyez saint, comme mon Père Céleste est saint. Il faut garder le calme parce qu'on garde le cap. Si vous jouez à la toupie, vous savez, la toupie, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Alors c'est bien. Alors vous vous agitez, vous nous racontez tous vos déboires, vous faites trois fois le tour de l'église, vous mettez 20 cierges, vous allez voir les marabouts et tout ça. Et... Non, pas les marabouts, ça vous oserez pas me le dire. Jamais. Mais enfin quand même, on ne sait jamais. En tout cas, n'y allez pas. Hein. Mais, vous voyez le truc, faire la toupie, ça vous dit quelque chose quand même, quelquefois. Il y a des gens, alors, vous n'endormez pas de la nuit parce que vous en pensez, vous êtes, etc. Je vous fais pas de dessin, vous savez. Mais le calme, vous verrez jamais la Sainte Vierge si vous êtes comme ça. Hein. Mais le calme, gardez le cap. Courage, calme. Et puis sur quoi j'ai insisté pour la miséricorde? Ayez la foi, la confiance en Dieu. Vous savez, les serveurs, ils ont rempli trois grandes jarres d'eau, six jarres d'eau. Ils arrivent auprès du maître du repas. Qui est le maître du repas? Évidemment, c'est Dieu le Père. C'est lui qui célèbre cette alliance. Car vous avez remarqué, si on ne parle jamais du marié dans l'histoire. Et donc, c'est bien parce que, en tout cas, je ne suis pas sûr qu'on parle de la mariée. Donc, un mariage sans marié, c'est quand même bizarre, non? Et donc, ils arrivent au maître du repas, à Dieu lui-même, pour lui servir cette eau. Et voilà que c'est le bon vin de l'Alliance. Mais il fallait un acte de foi pour effectivement servir cette eau qui est devenue du vin, le vin de l'Alliance, le vin du Christ. Mais peut-être que je vous ai intrigué en vous disant, mais où est la mariée ? L'époux, on le devine dans le texte, évidemment. Vous avez deviné où est l'époux. L'épouse, je comprends que vous ne la connaissiez pas, parce que c'est le verset qui n'a pas été retenu dans le lectionnaire. C'est ça le problème. Sinon, je ne suis pas très d'accord avec le lectionnaire aujourd'hui, hein, je suis désolé. Mais est-ce que vous vous rappelez de la suite du texte, le verset suivant ? On parle de Jésus avec un certain nombre de ses disciples et la Vierge Marie. On parle de l'Église qui est née aux noces de Cana. Et donc, la voilà l'épouse. C'est l'Église. Et la clé de compréhension du texte, c'est justement ce qu'on ne vous a pas lu. C'est justement les premiers disciples avec la Vierge Marie, notre mère, et Jésus avec les premiers disciples. C'est le Jésus époux et l'Église épouse. Et cette alliance, elle est là, avec Dieu le Père qui a goûté le bon vin et qui a mené l'alliance jusqu'au bout, et la Vierge Marie qui est devenue notre mère, pleine de grâce et de miséricorde. N'est-ce pas beau cette alliance ? N'est-ce pas un grand mariage, non ? Moi j'aime bien ce mariage de Cana, parce que c'est les vraies noces. Vous vous rendez compte ? Nous, Église, nous sommes l'épouse. Jésus est l'époux, et le bon vin, c'est le sang du Christ, la charité. Le maître du repas, c'est Dieu le Père. Et tout cela, au cœur de la résurrection du Christ, de sa mort et sa résurrection. Femme, que me veux-tu ? Oui. Je veux que tu entres dans cette alliance, car je suis la femme de miséricorde, la mère de miséricorde, et je veux vous faire entrer dans cette alliance, dans cette alliance. Je veux, moi, la mère, avec le maître du repas, Dieu le Père, que vous soyez l'épouse du Christ, et que le Christ soit votre époux, et que la joie du bon vin, de l'Eucharistie, et du corps du Christ, soit l'alliance en votre sang, et que dans votre sang humain, il y ait le sang divin du Christ, et qu'entre le sang divin du Christ et votre sang humain, ça soit tout un, car Dieu vous a unis, pour que nous soyons un, pour que la belle Église une soit unie au Dieu Père éternellement. Alors, bienvenue aux noces de l'agneau, bienvenue à ces noces de Cana que nous allons célébrer.